Transistor.
Un instant, il y aura l'hélium de l'actu.
Transistor. Web.
Murmure de la Terre, épisode 5, Récit chilien, nouvelle constitution et musique décoloniale. Le 25 octobre dernier, les Chiliens ont voté a pluebo à plus de 78% et ont donc opté pour un changement de constitution de leur pays. Ils ont aussi fait le choix que ce soit une assemblée constituante qui la rédige, c'est-à-dire les citoyens et citoyennes, et non des parlementaires. L'assemblée sera paritaire et ses membres seront élus en avril prochain. Elle aura alors un an pour être rédigée, puisqu'en 2022, elle sera soumise au vote national. Ce changement de constitution était une revendication des citoyens et citoyennes descendus dans la rue pendant l'estadio social débuté en octobre 2019. Cette révolution sociale demandait entre autres choses de se débarrasser de cet héritage de la dictature de Pinochet qui inscrit le libéralisme au fondement de ses lois. Une victoire historique donc, qui ne résoudra pas tous les problèmes d'inégalité socio-économique du pays du jour au lendemain, mais qui relance le processus démocratique et des perspectives pour le futur. Sur la Plaza Dignidad, à Santiago, épicentre des mouvements sociaux de l'année écoulée, la foule est venue célébrer cette victoire. Angela a voté dans son village au sud du pays, dans la province de l'Araucanie, qui est traditionnellement ancrée très à droite, mais qui cette fois-ci a voté pour la Pluebo. En mettant son bulletin dans l'urne, elle était un peu émue. Alors elle nous raconte cette journée qu'elle attendait depuis des mois avec impatience.
Después de que terminó el conteo de votos.
Quand le compte des votes s'est terminé ici, que la Pluebo l'a remporté à environ 77%. Je ne me souviens plus très très bien, mais c'était une proportion d'environ 70% contre 30%. C'était incroyable. Il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'hystérie à la maison. Mon père a crié que ça y est, la constitution de Pinochet était partie. On pouvait entendre aussi les klaxons dehors. La salle de la Dignidad s'était remplie de monde, tous en train de célébrer. Et oui, ils portaient des masques. C'est un plébiscite qui, comme je l'ai déjà dit, je l'ai senti vraiment très proche de mon cœur. Et c'est une énorme étape pour pouvoir construire une constitution qui reflète vraiment ce qui est nécessaire pour les gens, qui enfin ne soit pas séquestrée par trois communes, comme on dit. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que les trois seules communes où c'est le rechazo qui l'a emporté, ce sont les trois communes les plus riches du Chili, qui se trouvent à l'est de Santiago. Ce sont Vitacura, Lo Barnechea et Las Condes. Là-bas, c'est le rechazo qui l'a emporté. Et c'est important de se rendre compte que, dans une certaine mesure, la démocratie était séquestrée par ces trois communes. Et ce qui va sans doute se passer, c'est qu'elle va continuer d'être séquestrée jusqu'à ce que le processus se fasse. Voilà. On espère que l'Assemblée sera... Parce que, en plus, oui, c'est l'Assemblée constituante qui a gagné, et non la Convention mixte. La proposition de Convention mixte n'a pas gagné, donc... Oui, la Constitution chilienne sera la première au monde à être 100% paritaire, à être écrite à 50% par des femmes et à 50% par des hommes. Durant ces prochaines semaines, des quotas de personnes en situation de handicap qui devront être présents sur les listes vont être fixés. Et aussi vont être votés les sièges dédiés aux représentants des peuples autochtones pour que la représentation soit réellement équitable et que les voix des minorités et des peuples natifs puissent enfin être écoutés. Cette discussion à propos des quotas doit se terminer vers la première semaine de novembre, je crois. Ça doit être assez rapide parce que l'élection des constituants est en avril prochain. Donc ça va beaucoup bouger l'année prochaine. Les deux prochaines années vont être bien bien chargées pour la politique chilienne, mais aussi pour l'histoire de la politique chilienne. Je suis super heureuse qu'on s'empare enfin des rênes de la démocratie, comme on dit. Prendre le pouvoir constitutionnel et que le pouvoir constitutionnel soit vraiment ce qu'il doit être, c'est-à-dire venir du peuple. Et voilà, je suis heureuse et fière de tout ce qu'on a réussi à construire durant cette année, malgré la pandémie, avec un vote où il y a eu une augmentation du nombre de participations pas hyper significatif, mais quand même, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont allés voter, et ça, c'est historique, parce que les jeunes au Chili, en général, ne votent pas. Et là, ça a été le cas. Et avec tout ça, avec la pandémie, avec les confinements, malgré tout ça, les gens peuvent avoir un peu d'espoir. Pas énormément, parce que quand même, il y a beaucoup de monde qui est très méfiant vis-à-vis de ce processus, mais malgré cette méfiance, les gens sont allés voter, donc on espère que c'est pour le mieux. Dans tous les cas, n'importe quel truc sera toujours mieux qu'une constitution écrite pour une minorité, pendant une dictature, n'importe quel truc sera mieux qu'une démocratie séquestrée par trois communes. Et la constitution sera forcément mieux une fois construite tous ensemble.
L'histoire du Chili est marquée par des plébiscites et des élections historiques, des mouvements sociaux qui revendiquent plus d'égalité et de démocratie, et des revendications des peuples autochtones pour être reconnus et qu'on respecte leurs droits. On pourrait mentionner, rien qu'en considérant les événements les plus récents et les plus marquants, le mouvement étudiant de 2011 qui a obtenu la gratuité de l'université pour les étudiants et étudiantes les plus défavorisés, la révolution féministe de 2018 ou l'estadio social de 2019. Et cette vie politique intense, cette lutte pour la dignité et les droits sociaux, est profondément liée à la musique.
Tiene una pena que no la puedo callar. Son injusticias de siglo que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, buen chullar. cavando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curimón. Entonces corre la sangre, no sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. Levántate, Manquilé. ¿A dónde se fue Lauta? Perdido en el cielo azul. Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur. Por eso pasan llorando los cueros de su poltrón. Levántate, pues, Calpín. Que el indio afligido está a la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear. Totoras de cinco siglos, nunca se habla de secar. Levántate, Cayupán. Arauco tiene una pena más negra que su chamal. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, Pailahuán. Ya rugen la votación, se escuchan por no dejar. Pero el quejido del indio, ¿por qué no se escuchará? Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, Huenchuña.
Vous venez d'écouter le titre Arauco tiene una pena de la très grande Violeta Parra, une suggestion du DJ chilien Antu. Violeta Parra est un exemple de ces travailleurs et travailleuses de l'art qu'il a beaucoup écouté. Il raconte que dès les années 50, cette musicienne s'exprimait par ses chansons en faveur de la résistance et de la bienveillance, mais aussi de la lutte mapuche, ce peuple autochtone dont nous avons parlé dans les précédents épisodes des Murmures de la Terre. Et c'est de ça dont parle la chanson, de la tristesse de ces peuples autochtones dont font partie les mapuches. Je vous propose donc de faire connaissance avec le DJ chilien Antu, installé à Lyon, qui était venu parler de sa musique et de son lien avec le Chili, avant ce deuxième confinement dans les studios de Transistor.
Mon nom est Jorge. Au moment où j'ai commencé dans la musique, je suis devenu papa. Enfin, j'ai commencé la musique un petit peu avant, mais il y a 17 ans, j'ai eu un fils qui s'appelle Antu. Et donc, en son honneur, j'ai pris son nom en tant qu'artiste. Commencer à faire de la compilation de musique et des travaux de collectivisation de musique au Chili. Et c'est là-bas que j'ai pris ce nom professionnel.
Et je sais que Antu, c'est une signification bien précise en Mapuzungun. Ce n'est pas un nom banal. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu peux nous expliquer un petit peu?
Antu, normalement, bon, ça vient du Mapuzungun, qui est la langue de la terre, du groupe natif Mapuche. Ce sont les gens de la terre. Actuellement, ils vivent au sud de l'Argentine et du Chili. Et à l'origine, ils vivaient dans la zone centrale où se trouve aujourd'hui Santiago et du côté argentin depuis la ville de Neuquén jusqu'à la Patagonie. Ça, c'était le territoire mapuche avant les républiques chiliennes et argentines. Bon, ce groupe autochtone Il a une spécificité, ce groupe autochtone. On peut dire qu'ils ont été la résistance à la colonisation inca. Jusqu'en 1500 quelque chose. Et ensuite, ils ont été la résistance à la colonisation espagnole. Ils ont en fait été le seul groupe aborigène natif qui ait résisté et a été reconnu par la couronne coloniale espagnole comme une société indépendante qui se trouvait hors du domaine de la colonisation espagnole. Donc c'est un groupe qui a beaucoup d'importance pour les peuples natifs de l'Amérique du Sud et qui a de l'importance également pour cette partie du Chili et de l'Argentine. C'est important d'insister sur le fait qu'ils sont mapuches et pas chiliens ou argentins. Et les mapuches, ils ont leur propre culture et leur propre cosmologie. Et dans tout ça, dans la langue mapuzungun, Antu, ça signifie l'aurore. La première lumière après l'obscurité. Et ça, c'est quelque chose de très important pour le peuple mapuche, parce que c'est le nouveau commencement, le nouveau lever de soleil. Tout vient de ce moment, afin de pouvoir générer cette conscience nécessaire à l'expérience de vie que mènent les mapuches. Et cette conscience, c'est celle de la responsabilité d'être les gens de la Terre.
Oui, donc on comprend que c'est un nom d'artiste assez symboliquement fort, avec une signification très personnelle et qui exprime une part de ton identité.
Oui, exactement.
Et si tu nous parlais un peu de toi, tu es un artiste qui fait de la musique. Depuis combien de temps tu en fais? Et qu'est-ce qui t'a fait comprendre que la musique allait être quelque chose d'aussi important dans ta vie?
Bon, avant tout, j'aimerais bien préciser que pour moi, être artiste, c'est faire partie d'un milieu artistique. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une formule, une industrie derrière qui transforme l'essence de l'artiste en tant que tel. Et donc moi, plus qu'artiste, je préfère me considérer travailleur de l'art. Pour moi, la musique, les arts visuels, les plastiques et le théâtre, ce sont en fait des outils qui vont de pair avec une cause sociale. Et sans cette cause sociale, c'est un petit peu difficile de se considérer comme travailleur de l'art. Il y a beaucoup de personnes qui font de l'art de manière commerciale, mais pour moi, me considérer comme un travailleur de l'art et pas un artiste, ça a une signification sociale. C'est l'utilisation de cet outil qu'est l'art pour pouvoir renforcer les collectifs sociaux, les réseaux communautaires et collectifs. Et donc, bon, je ne sais pas si en France le concept s'utilise beaucoup, celui de se dire non pas artiste, mais travailleur de l'art. Mais ça, cette idée, elle vient d'une logique, un positionnement qu'a affirmé Victor Jara, qui était lui un artiste, ou plutôt d'ailleurs un travailleur de l'art chilien. Et lui, il a posé cette question qui était: qu'est-ce qui se passe pour l'art? À quel moment tu te définis comme un artiste? Et lui répond à cette question de cette manière, et de là vient sa logique. Je ne suis pas un artiste, mais un travailleur de l'art à la disposition de la lutte sociale et de l'utilisation de l'art pour donner de la force aux mouvements sociaux.
Et du coup, il y a eu un événement en particulier qui t'a décidé à faire de la musique engagée socialement, ou ça a été un chemin plus progressif?
En fait, ce qui se passe, c'est que dans la musique et dans l'art en général, dans les pays les plus précarisés, c'est qu'il n'y a pas de statut pour les artistes. Il n'y a pas de droit socioculturel et l'art devient alors une nécessité. C'est très important de se réunir lorsque l'art se manifeste de cette manière.
Si
je me souviens bien, quand j'étais petit, absolument toutes les réunions familiales étaient des mouvements artistiques en fait. Les oncles, les grands-parents, les cousins, ils prenaient la guitare, ils faisaient de la musique. Et aussi tous ces carnavals qui avaient lieu dans différents quartiers populaires, au sein de différents peuples, dans les favelas. Ça fait partie de l'ADN socioculturel de l'Amérique latine. On est un peuple colonisé depuis très longtemps. Et c'est l'une des formes que nous avons pour pouvoir nous désenchaîner et pour libérer toute cette énergie contenue par la répression et la colonisation elle-même dans les différents champs qu'elle occupe, qu'ils soient économiques, physiques, intellectuels, sexuels. Elle a concerné aussi une partie de l'art. Et d'une certaine manière, les différentes administrations ou gouvernements ont refusé l'instance culturelle au peuple pour qu'il ne puisse pas s'exprimer, justement. Et c'est clair que naturellement, ça a explosé. C'était trop important de se sentir à un moment accompagné par l'outil qu'est l'art qui se manifeste dans une expression populaire. Et on voit ça, en fait, dans l'époque obscure de l'Amérique latine, des dictatures hein, où l'art a été réprimé. Il y a eu des réfugiés politiques qui étaient des travailleurs de l'art, des artistes. Ils ont fini par s'exiler parce que les dictatures voulaient mettre fin à ces instances artistiques ou à ces relations humaines par le truchement de la culture. Mais en fait, c'est difficile que cela arrive réellement, parce qu'il y aura toujours une petite graine qui va donner lieu à de l'art, qu'il soit populaire ou officiel, ouais.
Et du coup, tu nous as parlé de Víctor Jara et de sa musique. Tu veux nous passer une de ses chansons ?
Oui, alors je vais vous passer une chanson qui s'appelle... Elle s'appelle Vamos por Encho Camino. C'est une chanson que j'écoutais quand j'étais petit. Ma famille n'était pas complètement politisée, mais le cadre dans lequel j'ai vécu et grandi dégageait quand même l'impression d'une résistance politique. Je viens d'un quartier populaire, d'un quartier pauvre, où chacune des petites manifestations artistiques était bien valorisée et reconnue comme un acte de résistance politique. Et cette chanson, elle a beaucoup marqué mon enfance. Elle parle de ça, en fait. Elle parle d'ouvrir un chemin à la lutte sociale, à une lutte collective qui, à ce moment-là, depuis la colonisation et même ensuite, ne s'était pas encore offerte au peuple opprimé.
Ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra. Terminaremos con ella, ven. El odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Camino, van galopando en el trigo, van. conmigo ven, ven, conmigo ven. Llegó la hora del viento, reventando los silencios. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar. Tu canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven.
C'était une chanson de Victor Jara que tu viens de nous passer. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce chanteur qui est connu dans le monde entier?
Le réseau que génère Victor Jara en tant que tel et l'humanité qu'il dégage dans le monde et au Chili, c'est une humanité qu'on peut qualifier de transparente. C'est la même que génère Allende, en fait, pas à la même échelle, mais c'est la même ligne de confiance qu'il génère. C'est le fait de se donner soi-même pour une cause. C'est se donner soi-même pour une idéologie et pour son amour de la volonté de vouloir une société meilleure. C'est donner sa vie. Et c'est ça que génère Victor Jara, c'est cette transparence. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de travailler à la Fondation Victor Jara avec sa femme, Joan Jara. C'est une femme très inspirante qui a lutté pendant plus de 40 ans pour obtenir justice par rapport à ce qui est arrivé à Victor Jara. Victor Jara, en fait, il a été assassiné par la dictature militaire de Pinochet en septembre 1973. Le 11 septembre, quand survient en fait le coup d'État militaire au Chili en 1973, une persécution financée par les États-Unis commence. Et ce n'est pas quelque chose que je dis moi, mais cela a été montré par des documents déclassifiés de la CIA que ce coup d'État, son but c'était de pouvoir contrôler la propagation et la diffusion du capitalisme. On a eu la malchance d'être le laboratoire du capitalisme financé par Nixon et les firmes transnationales qui avaient des intérêts financiers comme avec le cuivre, les mines et tout le reste. Donc oui, on a eu la malchance de, comme on dit en Amérique latine, d'avoir les richesses naturelles que nous offre la Terre.
Oui, et il y a une expression célèbre qui parle des veines ouvertes de l'Amérique latine.
Tout à fait. Qui parle de ça? C'est Eduardo Galeano qui parle de cette malchance, ou malarrache, qui nous poursuit depuis... Parce qu'en fait, avant la colonisation, tout était plus ou moins en équilibre.
Et au milieu de tout ça, il y a eu l'élection de Salvador Allende, son grand ami Victor Jara et le coup d'État de 1973.
Regardez, il y a quelque chose d'important qui s'est passé quand même. Les gens du monde entier qui regardaient la possibilité qu'avait développé Salvador Allende de lancer le communisme sans les armes, sans effusion de sang. Il a réussi quand même à changer une forme de pensée au Chili. Et de là sont nés de grandes icônes chiliennes.
Comme Victor Jara, comme Quila Payún, comme Inti Illimani, comme un peu antes Violeta Parra.
Et ces grandes icônes chiliennes se sont mises à parler de sujets importants, de la lutte sociale, des thématiques environnementales.
Et donc, comment faire? Comment toi tu fais? Puisque tu es un travailleur de la musique, pour faire de la musique qui soit post-coloniale.
Tu vois, c'est important ce que tu me dis. Parce que bon, quand tu ne t'intéresses pas à l'art, ou que tu ne fais pas de recherche à ce propos sur la manière de faire de l'art, de s'exprimer, de dire les choses. Dans ce cas, souvent, tu vas prendre un rythme qui te plaît et tu le passes avec un bon son et ça y est, tu fais une fête. Et c'est quelque chose qui me choque beaucoup ici en Europe. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est à la mode, les sons des Balkans. » Bon, voilà, la musique balkane avec un petit peu d'électro et c'est parti. Mais l'histoire des pays de l'Europe de l'Est, elle est dure. Ils sont juste tout près de l'Europe, mais ils n'ont pas du tout les mêmes avantages et les mêmes privilèges. Et ce qui se passe avec la musique latino-américaine, c'est exactement ça en ce moment. C'est ce qui s'est passé avant avec la salsa dans les années 90, et maintenant ça revient avec la cumbia. Et c'est ce qui se passe, il y a plein de gens qui disent « Allez, on va faire de la cumbia », et ils pensent que c'est tout. Mais la cumbia, ça a une histoire de fond. Cette musique, elle tient en elle-même une lamentation. C'est une musique populaire qui unit l'esclave noir qui a été amené depuis l'Afrique à l'autochtone soumis au statut colonial et à l'immigré lui-même, qui vient coloniser, qui est pauvre. C'est l'andalou, c'est le maure, c'est l'arabe. Qui sont en prison, ils les sortent pour ce voyage sans retour et ils les envoient à la mer à la recherche de quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Et c'est ça la cumbia. C'est cette fusion de peuples opprimés, c'est le tambour africain, ce sont les origines et les chants autochtones. Et ce sont les harmonies de ces peuples opprimés qui sortent de prison et qui viennent coloniser. Et ils sont pareils que ceux qui vivent déjà là-bas. Et c'est comme ça que la cumbia est générée. Et sans comprendre tout ça, c'est difficile, parce que la cumbia, c'est pas du tout une musique de club.
Donc, j'ai une question. Toi, tu fais de la musique en France? Et du coup, quelle relation tu as avec les gens qui viennent t'écouter et écouter ce que tu produis? Est-ce que tu expliques ta musique ou est-ce qu'ils la connaissent déjà bien? Comment ça se passe?
Je crois que accepter le cliché, ça fait partie de l'appropriation culturelle. Ça fait partie de la néocolonisation. En fait, en ce moment, la néocolonisation, c'est pas seulement partir, acheter un terrain et soumettre les gens locaux. Non, c'est aussi assumer une histoire qui n'est pas réelle. Et l'assumer depuis la commodité et le confort que te donne ta position eurocentrée de blanc. C'est pas du tout une attaque personnelle quand je dis personne blanche eurocentrée. Je me réfère à cette position de manière historique. Donc, pour clarifier, quand on parle de cliché, il ne faut pas accepter un cliché. Il faut chercher la source réelle et rompre de ce cliché et rompre ce cliché culturel, parce que finalement, le cliché prolonge l'héritage de l'exploitation et de la colonisation. Maintenant que ça c'est clarifié, la musique. Bon, moi j'ai plusieurs formats de présentation. J'ai un DJ set qui je cherche de la musique qui retrace un petit peu la route de l'esclavage, depuis l'Afrique jusqu'à l'Amérique latine, en passant par les Caraïbes, les îles, etc. Et tout ce qui a à voir avec la relation à l'afrodescendance en Amérique latine et dans la musique africaine. Ça, c'est un peu ma lutte, mon investigation, et c'est aussi mon travail. Donc si un jour vous venez à une de mes fêtes, vous allez rencontrer cette variété, cette multiculturalité d'une musique qui vient à la fois des modèles originaux de l'Afrique noire jusqu'à la musique endiablée et festive de l'Amérique latine. Et aussi, ces musiques, elles ont une relation charnelle, la musique afro-américaine et la musique latino-américaine, mais aussi la musique latino-américaine post-coloniale avec la musique de l'Europe de l'Est, la musique balkane. Parce que finalement, d'après moi, la musique se divise en deux. Il y a la musique du Sud et la musique du Nord. Et la musique du Sud, c'est celle des opprimés. De tous ceux qui sont très loin de, de ce narratif. C'est la musique qu'on joue dans la rue, dans les carnavals, dans les maisons. Alors qu'ici, pour faire de la musique, bon, tu vas avec tes amis, tu rentres à la maison et tu fais quelque chose, mais... Bon, les carnavals, bon, ça fait 7 ans que je vis en Europe et j'ai vu très peu de carnavals. Excepté les carnavals de fêtes de rue, là. Là, ça s'exprime bien. Mais les carnavals en soi en Europe, ça n'existe pas. J'ai plusieurs formats de présentation. Le plus connu des gens, c'est ma playlist de musique dans laquelle je retrace un petit peu le voyage de l'esclavage ancestral.
Ancestral, antiguo,
antique, l'esclavage antique, colonisateur et ensuite moderne. Parce qu'en fait, là, je ne passe pas que de la musique des années 1950, je passe aussi de la musique contemporaine qui a beaucoup de choses à dire et qui est faite de cette fusion entre reggaeton, hip-hop, ska et rocksteady. Donc voilà, c'est ça mon travail de DJ set. Ensuite, j'ai joué sur un projet musical qui s'appelait Al Choque. C'était un trio qui, aujourd'hui, est un quartet de cumbia psychédélique, mais version garage. C'est intéressant parce qu'on rompt un peu le cliché de la cumbia, de son format, comme ça. Et tout ça, on le joue un peu plus avec une version trans, une version électro-analogue, une version un petit peu psychédélique. Et on ajoute à cette potion magique un peu de chaleur, un peu de feu, un peu de champignons et d'ayahuasca, et c'est parti. On a un peu voyagé avec ce projet, et ce qui est intéressant avec ce projet, c'est qu'il n'y a pas de parole. Seulement de la musique, et on a travaillé avec un illustrateur, son nom c'est Carlitos, peut-être qu'il m'écoute en ce moment, il est colombien et il réalise des projections et des cartes incroyables. Donc il nous a fait voyager à travers ses visuels et nous on joue de la musique. Le troisième projet que j'ai, il s'appelle Cambo, c'est un projet que... c'est un projet que je fais seul, c'est un voyage digital avec des sons analogiques. Je cherche et j'enregistre des sons traditionnels colombiens et je les mélange avec des synthétiseurs et des guitares en live avec des samples. Tout ça en son analogue, avec quelques bases digitales également. Également, il n'y a pas que des textes figés, il y a aussi des samples. Mais il y a un aspect un peu plus trans, il y a un aspect plus ayahuasca. Au début, je commence ma session et jusqu'à ce que ça s'arrête, la musique monte et monte et monte en intensité et ça se mélange avec des sons de tambour, des boyerengues, de puya, de cumbia et ça se mélange avec des sons psychédéliques de synthétiseur, de guitare électrique. Voilà ce que je suis en train de préparer et voilà ce qui va bientôt sortir après le prochain confinement qu'ils vont nous mettre. Tu vois, ce qui est bien en Europe et en France, c'est qu'il y a des droits garantis, des droits pour lesquels des gens se sont battus pendant des années, qui sont des droits sociaux basiques, comme le logement, la santé, l'éducation et la culture. Donc ici, le droit à la culture est établi de manière légale. Ici, on reconnaît qu'il y a une responsabilité de l'État et de la société pour garantir des manifestations culturelles. Si ce n'est pas de manière libre comme en Afrique ou en Amérique latine, au moins, il y a ce statut qui oblige la société à assumer la culture. Et ça, c'est très intéressant pour le créateur, l'artiste ou le travailleur de l'art. C'est une chose qu'il n'y a pas en Amérique latine parce que les gouvernements en Amérique latine font en sorte de maintenir le peuple soumis comme une main-d'œuvre. Il n'y a pas d'industrialisation et il n'y a pas de possibilité de s'épanouir en tant qu'humain grâce aux droits sociaux. Les humains en Amérique latine sont seulement considérés comme une main-d'œuvre qui devrait servir à attirer les investissements étrangers, et on a déjà parlé de cet investissement étranger qui est sans considération aucune pour les problématiques écologiques. Et cette main-d'œuvre pas chère est en compétition avec celle de Chine et des pays d'Asie du Pacifique. Donc, comme il n'existe pas ces droits sociaux fondamentaux en Amérique latine, c'est impossible de vivre de ton art si tu n'as pas le bon nom, si tu n'as pas le bon contact, ou si tu n'as pas le bon réseau, ou ta propre galerie d'art qui puisse te rendre solvable. Mais l'art officiel en Amérique latine, il est seulement pour une minorité. Et l'art populaire ne fait pas partie de ce cercle fermé. En Europe, en France, ce n'est pas le cas. Donc il y a quand même une possibilité de pouvoir créer. Et les gens peuvent assurer de manière responsable cette création collective, cette création ouverte. Et la société, ici, elle dit, bon, on peut assurer, payer et financer la création produite par cet artiste ou ce travailleur de l'art ou ce créateur. Et bon, ça change tout. Si j'ai une idée artistique, sur une manifestation artistique, sociopolitique, culturelle ou n'importe, ici, tu peux la mener et on te laisse la mener. En Amérique latine, non. En Afrique, non plus. Et ça, c'est un déclic qui change tout dans la relation à la création. Le créateur ici sait qu'il a ce droit. Et à d'autres endroits, comme en Amérique latine, non.
Ok, entonces podemos elegir de nuevo otra música.
Sí, mira, voy a poner algo.
Ok, alors je vais mettre un truc un petit peu plus moderne. C'est un morceau qui fait partie d'un album qui est sorti en 2010. C'est d'un rappeur chilien qui s'appelle Portavoz. Et depuis 2006 et ensuite, enfin bon, depuis 1995, il y a eu un début de critique du fonctionnement politique post-dictature. La dictature, elle a duré jusqu'en 1989 environ, et après les années, comment on dit, les premières années de transition politique, on a commencé à voir les choses qui n'allaient pas fonctionner correctement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, enfin jusqu'à l'année dernière, où s'est déclenché l'estadillo social, comme l'a appelé la presse, mais ce n'est pas un estadillo social, c'est une accumulation de colère sociale. Cette chanson, ça a été un hymne juste avant la révolution de 2011, de la révolution des étudiants. Et cette chanson, enfin l'album en soi, elle a joué un rôle très important dans la formation intellectuelle de beaucoup d'étudiants. Et c'est pour ça qu'elle a autant d'importance.
On écoute Escribo Rap con R de Revolución du groupe Portavoz. Andy.
Yeah. Aquí explota. Para que tomen, para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Me escurro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza. La ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la cana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político. Creado por decisiones políticas. Y significa que si mi rap político. Porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te haces parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad. Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuchen. Pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subierte el lenguaje, me quedé en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te asegura que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay quien me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente.
entre tanta tele, competición y reggaetón. Yo escribo rap con R de revolución. Es cierto, ser un revolucionario mi proyecto, pero soy humano con defecto, para igual que el reto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, pues y vacilón, simplemente porque de carrete le hablo el reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular, y sigo firme y digno y digo, tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coman, porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición, y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya, no hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap, y no vale una amiga lo que diga todo el mundo, si los perros chillan significa que les pica el punto.
Alors, vous imaginez bien que la conversation avec Antou ne s'est pas arrêtée là, et vous pourrez donc retrouver la suite dans les prochains épisodes des Murmures de la Terre. Merci à Antou et à Andrella d'avoir participé à cette émission. Merci aussi à Nicolas Sende et à Sarah Marmis d'avoir prêté leur voix pour la traduction.